15 nuits à compter de ce jour-là. 15 nuits, sans aucune lueur, sauf celle de la torche de résine allumée au seuil. C'est pourquoi les yeux étaient rivés au sol, afin que rien ne vienne interrompre la nuit tombée en soi. 15 de ces nuits parfaites, ponctuées par le chant qui monte 5 fois de suite, avec pour seul accompagnement le battement des mains.
Qui sème regarde la terre, elle est vie, vit seulement.
Qui sème regarde la terre, elle est vie, vit seulement. Qui pleure regarde la terre, elle est en deuil, deuil seulement. La vie est vie pour qui sème, la terre est deuil pour qui pleure. Pleure comme tu sèmes, et la terre sera vie, vit seulement.
Nul doute, ceux qui chantaient ainsi, nuit après nuit, savaient pourquoi ce chant. S'ils savaient, ils n'avaient pas manqué de froncer les sourcils en voyant Anka, couché à leur côté, à même le sol, en deuil, sans que personne ne l'y ait obligé. Qui d'ailleurs aurait songé à lui suggérer une position à laquelle ne se soumettent que les adultes qui savent? Le petit-fils de Rediwa dormait par terre, comme s'il savait. Et chacun se demandait pourquoi il ne chantait pas, malgré l'insistance de ceux qui savaient. Il y avait là de quoi s'émouvoir. Le village s'émut de ne pouvoir répondre aux questions qu'il se posait, certes, mais plus encore de constater l'état de cet enfant. En effet, passé 15 jours, chacun s'était relevé de son deuil. Seul, l'enfant de Kota et de Nindya restait prostré. Pourtant, se dit-on, rien n'avait été négligé pour que les larmes soient une semence qui germe là où elles sont tombées. Au terme de ces 15 nuits noires, ne s'était-on pas levé de grand matin pour remonter la rivière de Gros Galets jusqu'au rocher couvert de mousse où elle prenait source? Là, l'eau surgit du ventre de la terre parlait de naissance. Rien ne valait les vertus de cette eau neuve qui n'avait encore rien charrié. Pour venir à bout du malheur, il n'y avait rien de mieux. Aussi, chacun s'en était lavé et en avait recueilli un plein seau pour purifier le village. Et puis, les masques avaient arpenté la cour de chaque case. Leurs yeux, ayant balayé le sol jusqu'au moindre de ses ravinements, étaient tombés d'accord. Le village était bien lavé. Alors, les masques avaient dansé tout un après-midi durant, la danse dont le tournoiement du raffia reflète la vie. Et pour bien montrer que tout en effet était de nouveau vie dans le village que la mort venait de visiter, les masques allumèrent eux-mêmes les torches de résine au seuil de chaque porte dès que le soleil se coucha. Qui pouvait les voir brûler ce jour-là sans songer qu'il est chaud le feu? Chaud comme la mort ne l'est pas. Il palpite à l'image de la vie. Mais voilà que l'enfant de Kota et de Nindya démentait. Tout en lui était le contraire du mouvement. Son silence criait à chacun que la terre où étaient tombées les larmes portait encore le deuil, comme si l'eau du rocher couvert de mousse n'avait pas lavé, comme si les masques n'avaient pas dansé et allumé la flamme au seuil de sa porte. Et le village, qui ne comprenait plus rien, se mit à frémir de voir les yeux d'Anka ne plus cligner, fasciné qu'il semblait par une vision que l'on devina fatale. Sa bouche aux dents serrées n'acceptait rien, et quand elle daignait parfois s'ouvrir, c'était pour ce murmure que chacun expliquait par la fièvre qui lui brûlait le front. « Tes yeux, Tate, donne-moi tes yeux !» Ce délire aux yeux du village n'eut pourtant rien de banal. On retint surtout que l'enfant prononçait le nom de son aïeul mort. Cela suffit pour que la voyante au miroir soit appelée d'urgence. Et elle, qui ne trompe ni ne se trompe, vint. Elle dit que les jours de cet enfant étaient comptés et qu'il convenait de faire vite, car elle voyait, de ses yeux qui percent les mystères, un long serpent, tous anneaux déployés, qui rampait vers sa proie.
Un serpent ? En ce lieu où les masques venaient de danser ?
Le village n'en croyait pas ses oreilles. Sentant le doute autour d'elle, la voyante au miroir haussa la voix et fronça les sourcils. Qu'y avait-il d'étonnant dans ce qu'elle venait de dire ? La case où vivait cet enfant ne venait-elle pas de perdre son véritable toit? Elle était offerte à tous les vents mauvais et aux regards malveillants de ceux pour qui la nuit n'est pas faite pour dormir.
Jockey !
S'exclama alors l'assistance.
Jockey devant la porte de Kota Ninja.
La voyante opina gravement de la tête pour aussitôt après se faire rassurante. « S'il est vrai, dit-elle, que le monstre est prêt à happer, n'est-il pas aussi vrai que la plante et l'écorce peuvent lui faire mordre la queue, comprenez-vous ? » Kota et Ninja se regardèrent. En vérité, ils comprenaient. Dans leurs yeux se lisait une obsession qu'ils s'étaient efforcés de taire jusque-là. Ils n'avaient qu'un enfant et savaient que qui n'a qu'un n'a rien. Ce rien qui pour eux représentait tout s'appelait Anka, ainsi nommé parce que 3 ans après sa naissance, le ventre de sa mère restait sourd à tous les espoirs que Kota y mettait. Alors Rediwa, l'aïeul, qui savait et qui avait voix au conseil du village, décida qu'il fallait taire le véritable nom de cet enfant et faire comme si l'on acceptait que le ventre de Ninja ne puisse plus rien promettre. Du grand fromager à la rivière de Gros Galet, qui appellerait l'enfant de Kota et de Ninja, devrait dire Anka, l'unique, l'aîné et le cadet à lui tout seul. Quand les dieux persistent à refuser ce qu'on leur demande, ne suffit-il pas de faire semblant de se réjouir pour qu'ils donnent, croyant ainsi vous contrarier ? Au moment où la voyante au miroir parlait, aucun dieu n'avait encore donné. Anka était toujours le tout seul, ce rien. Kota et Ninja devaient-ils le pleurer ? Le pouvaient-ils ? Ils savaient que ces larmes-là leur étaient interdites. Elles ne se concevaient même pas. C'est la raison pour laquelle, quand la voyante leur dit « Pour les yeux de cet enfant qui ne cligne plus, Jové, une pièce de Madapolam et une autre de toile de Guinée. » Ils répondirent
« Oui. » »«
Pour sa bouche qui n'avale plus rien, aïe, 3 plumes d'une poule couleur de la nuit, 3 d'une poule couleur du jour et 3 rouges sang de la queue d'un perroquet. » Ils répondirent
« Oui. »
Pour son corps alangui qui sombre dans la torpeur, Nke, du rhum vieux et des mets rares pour contenter l'arbre qui donnera l'écorce et la plante qui donnera les feuilles. Ils répondirent encore
« Oui ».
Et ce « oui » répété n'aurait rien perdu de sa ferveur si la voyante avait exigé le sacrifice de leur propre vie. Mais la voyante au miroir ayant dit tout cela, ajouta seulement, après une légère pause, « Le reste est à l'appréciation de vous qui voulez voir. » Kota et Ninja ne demandaient qu'à voir. Ils se firent si généreux qu'ils ôtèrent à la voyante tout prétexte de ne pas entreprendre en la comblant de dons. Et la voyante entreprit. Si bien qu'au matin de cette nuit, Anka éternua. Le voilà qui fermait les yeux avec insistance comme si ses paupières écrasaient le reste d'une vision inadmissible. Quand il les ouvrit de nouveau, c'était un autre lui-même qui revenait d'on ne savait trop où, mais sûrement de loin. Alors Kota et Ninja, sans plus chercher à comprendre, jugeant seulement que leur enfant avait demandé de l'eau et à manger, se dirent tout simplement que les mânes bons l'avaient protégé, et que la voyante au miroir était la plus grande de toutes, elle qui avait fait mordre la queue au serpent qui rampait vers leur enfant. Ce qu'ils ne savaient pas, et que la voyante au miroir n'avait pas dit, c'est que l'enfant, en se relevant, avait seulement pris son parti de ne plus rien exiger. Puisque Tat était parti sans lui donner ses yeux, rien, se dit-il, n'avait plus d'importance. Rien. Sauf, peut-être, cette respiration qu'il faillit perdre. Désormais, il voulait prendre le monde tel qu'il s'offrait, sans s'étonner, sans chercher à savoir ce qu'il y avait derrière toute chose. C'était, pensait-il, la seule manière de se passer de l'aïeul et de ses yeux. « Es-tu sûr, mon petit, que tu vas bien ?» lui demanda la voyante au miroir. Anka hocha la tête. Machinalement. À vrai dire, il n'était sûr de rien. Il ne savait pas s'il était possible de se guérir tout à fait de l'aïeul. Mais il voulait essayer.